Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « L'authentique cuisine du Moyen-Âge est un ouvrage de cuisine historique de Françoise de Montmolin, illustré par les photographies de François Folcher, qui explore la gastronomie médiévale à partir de sources, de pratiques et de recettes reconstituées. Plus qu'un simple livre de recettes, il propose une synthèse de recherche sur les aliments disponibles au Moyen-Âge, les techniques de cuisson, les goûts de l'époque et la diversité des préparations servies selon les contextes sociaux. Le livre s'inscrit dans une démarche de vulgarisation rigoureuse. Il cherche à rendre intelligible une cuisine souvent caricaturée, tout en la rendant praticable avec des ingrédients et des ustensiles contemporains. Son intérêt tient aussi à l'équilibre entre dimension historique et usage culinaire, ce qui en fait un ouvrage utile à la fois pour les passionnés d'histoire, les curieux de patrimoine alimentaire et les cuisiniers à la recherche de recettes anciennes adaptées au présent. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une restitution historique fondée sur les produits, les gestes et les goûts médiévaux. Le livre se distingue d'abord par sa volonté de reconstituer la cuisine du Moyen-Âge à partir de ce qui était réellement accessible à l'époque. Françoise de Montmolin ne se contente pas d'aligner des recettes anciennes, elle replace les préparations dans un cadre matériel précis, en tenant compte des produits disponibles, des modes de cuisson possibles et des préférences gustatives des contemporains. Cette approche est importante car elle évite de projeter sur le passé des habitudes culinaires modernes. Elle montre aussi que la cuisine médiévale ne se résume pas à une nourriture brute ou austère, mais à un ensemble de pratiques élaborées liées aux saisons, aux ressources locales et aux hiérarchies sociales. Le lecteur comprend ainsi que l'histoire de l'alimentation est aussi une histoire des contraintes, des techniques et des usages culturels. L'ouvrage prend alors la forme d'un document de médiation historique où chaque recette devient une porte d'entrée vers la société médiévale. Deuxièmement, des recettes nombreuses mais pensées pour être réalisables aujourd'hui. L'un des apports les plus concrets du livre est de proposer plus de 80 recettes sans enfermer le lecteur dans une reconstruction impossible. Les préparations couvrent plusieurs familles culinaires: pain, viande, poisson, tourte, rissol, légumes, sauces, desserts et boissons. Cette diversité permet de saisir la structure d'un repas médiéval et non seulement quelques spécialités isolées. Surtout, les recettes sont adaptées aux ingrédients et aux ustensiles contemporains, ce qui change radicalement leur utilité. Le lecteur n'a pas besoin de disposer d'une cuisine historique ou de produits introuvables pour expérimenter ses plats. Cette adaptation n'efface pas l'ambition historique, mais la rend opératoire. Le livre occupe donc une place intermédiaire entre le fac-similé érudit et le livre de cuisine pratique. Il répond à une attente précise, permettre une expérience culinaire crédible, tout en évitant que l'histoire ne reste purement théorique. C'est cette accessibilité qui explique en grande partie son succès auprès des amateurs. Troisièmement, une cuisine médiévale présentée comme savoureuse, saine et socialement différenciée, le livre prend le contre-pied d'une image simplificatrice du Moyen-Âge comme période de nourriture lourde, monotone ou peu raffinée. À travers sa présentation des plats, il met en avant une cuisine décrite comme savoureuse, saine et diététique, ce qui invite à reconsidérer les idées reçues sur la table médiévale. Cette lecture est toutefois nuancée par l'attention portée aux différences de statut social. Certains ingrédients, notamment les épices coûteuses, renvoyaient à des tables riches et ne concernaient pas toutes les bourses. Le livre montre ainsi que la cuisine médiévale n'était pas homogène, elle variait selon les moyens, les milieux et les occasions. Cette dimension sociale est essentielle, car elle évite une vision folklorique de la période. Elle rappelle que la gastronomie est aussi un marqueur de distinction et d'accès aux ressources. En présentant les recettes dans ce cadre, l'ouvrage aide le lecteur à comprendre les usages alimentaires comme révélateurs de la vie quotidienne, de l'économie et des hiérarchies du temps. Quatrièmement, un ouvrage de vulgarisation renforcé par un fort ancrage patrimonial, le livre ne relève pas seulement du domaine culinaire. Il s'inscrit aussi dans une logique patrimoniale. Le parcours de Françoise de Montmolin, cuisinière au château de Guédelon et ancienne bénévole sur le chantier, donne à l'ouvrage une crédibilité pratique particulière. Son travail de recherche prend appui sur une expérience concrète de reconstitution historique, ce qui renforce la cohérence entre le discours et la pratique. Les photographies de François Folcher jouent également un rôle important. Elles ne sont pas décoratives, mais participent à l'argument du livre en rendant visible le plat, les textures et l'atmosphère matérielle. Ce lien entre patrimoine, savoir-faire et image permet au lecteur d'aborder la cuisine médiévale comme une composante vivante de l'histoire. L'ouvrage se lit alors comme un objet hybride à mi-chemin entre livre de cuisine, livre d'histoire et support de valorisation patrimoniale. C'est cette pluralité qui le distingue des recueils de recettes plus ordinaires. En dernier lieu, une référence pour dépasser les clichés et apprendre à cuisiner l'histoire. la force du livre tient enfin à sa capacité à satisfaire deux attentes rarement réunies, apprendre et cuisiner. Pour le lecteur curieux d'histoire, il apporte un cadre documentaire solide sur les pratiques alimentaires médiévales. Pour le lecteur plus pratique, il propose des recettes testables sans exiger une expertise spécialisée. Cette double utilité explique qu'il soit perçu comme un ouvrage de référence dans son domaine. Il s'adresse particulièrement aux passionnés d'histoire médiévale, aux amateurs de gastronomie historique, aux médiateurs culturels et à ceux qui cherchent des idées de cuisine ancienne fiables. Son intérêt comparatif est clair là où beaucoup de livres de cuisine médiévale se limitent à une collection de recettes réinterprétées. Celui-ci articule recherche, contexte et faisabilité. Il ne promet pas une reconstitution spectaculaire, mais une compréhension solide et un usage concret. C'est cette sobriété méthodique qui fait sa valeur et qui le rend durablement pertinent dans une bibliothèque spécialisée. En conclusion, l'authentique cuisine du Moyen-Âge mérite d'être lue par toute personne qui s'intéresse à l'histoire de l'alimentation, aux traditions culinaires européennes ou à la reconstitution patrimoniale. Il conviendra aussi aux cuisiniers amateurs qui veulent sortir des recettes modernes standardisées et expérimenter une gastronomie ancienne sans renoncer à la praticité. Son principal bénéfice est de relier une base historique sérieuse à une mise en œuvre accessible. Le lecteur ne reçoit pas seulement des recettes, mais un cadre pour comprendre ce qu'elles signifiaient dans leur époque. Le livre se distingue de nombreux titres du même genre par son équilibre entre rigueur documentaire, diversité des préparations et adaptation aux usages contemporains. Il ne traite pas le Moyen-Âge comme un décor exotique, mais comme une culture alimentaire structurée, avec ses ressources, ses techniques et ses différences sociales. C'est cette capacité à rendre l'histoire lisible par la cuisine qui en fait un ouvrage particulièrement utile et durable. Si vous souhaitez soutenir Françoise de Montemolines, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.